Il nous restait deux versets de la foi d'avant qu'on n'avait pas abordé. Donc 13, 50 et suivant. Voilà. Bon, je vais juste relire cette partie. Donc à partir de 50. Hein. Donc, mais les Juifs jetèrent l'agitation parmi les femmes de haut rang qui adoraient Dieu, ainsi que parmi les notables de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Ceux-ci, ayant secoué contre eux la poussière de leurs pieds, gagnèrent Iconium. Quant aux disciples, ils restaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Voilà pour la fin du 13e chapitre. Par contre, je n'ai pas le questionnaire de la foi d'avant sous les yeux, donc je suppose.
Ah, c'est 44 à 52, c'est ça.
Je ne sais pas s'il y avait une question particulière
sur celui de la croix d'avant.
Là.
Il y en a une qui suit. Ah oui, c'est bien,
oui.
Moi, j'avais donné le mien.
Oui, donc la question portait sur que faisaient les Juifs et sur le bannissement, donc sur l'exclusion. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir ou éventuellement poser une question sur ces deux versets.
C'est quoi cette histoire d'exciter les femmes?
Oui, ça, je veux dire. Bon, dans la taupe, c'est plus prudent. Ils jetèrent l'agitation.
Ah, oui, voilà. Parce que nous, on a excité.
Oui, moi, j'ai excité aussi.
Ils
jetèrent l'agitation parmi les femmes.
Dieu jetèrent l'agitation. Et c'est maman qui passe
par. Oui, il y en a qui ne pensent pas toujours à la résonance.
Le français,
j'avais pas pensé.
Des petits rigolos de service.
Non, petits rigolos de service. Et tu as regardé dans le grec ou...
Donc il s'agit des...
Je t'ai le mot, non
je peux regarder.
Pour voir. Parce que c'est quand même une drôle d'expression, quoi.
Jeter une agitation.
Oui.
Mais tu vois, jeter l'agitation.
Alors en grec, c'est les Juifs fanatisèrent.
Ah,
beaucoup plus.
Ah oui, justement, des
enfin,
votes.
On rentre dans la manipulation intellectuelle, hein. La propagande. Voilà, c'est ça que le grec dit.
Ah, oui,
parce que jeter l'agitation, ben voilà.
Oui,
c'est comme si on lançait un truc.
Oui, c'est ça.
Non, là, c'est vraiment. Ils avaient un truc bien huilé, une mécanique de propagande, finalement, pour salir les autres, hein, pour salir Paul et Barnabas.
Et des votes.
Oui, c'était des dévotes. Alors.
Des votes de distinction, ça, quand même.
Oui, mais voilà. Ça ne veut rien dire.
En fait, c'est
ça a l'air positif, ça a l'air bien, des votes de distinction, waouh, que c'était des femmes extraordinaires, mais ça ne veut rien dire.
Donc en fait, en grec, il est clair que ce sont des femmes d'origine païenne qui vont à la synagogue, donc des craignants Dieu, à tout le moins, sinon des prosélytes. Donc c'est ces femmes-là que l'on contacte pour essayer de pousser un peu à bout, voilà. Et parce qu'il y avait beaucoup de femmes de haut rang, finalement, dans le milieu.
Et comment ça se fait, ça?
Parce qu'ils y trouvaient sans doute une certaine... comment on va dire? D'abord, dans le monde grec, les femmes étaient beaucoup plus libres qu'on ne le pense. Donc elle faisait des choix, mais là c'est évidemment la haute société. Alors je ne sais pas quelle est la raison fondamentale pour laquelle il y a autant de gens d'origine païenne qui fréquentent assidûment les synagogues. Ceci dit, les synagogues de la diaspora sont beaucoup moins à cheval qu'en Judée. Donc en Judée, tu n'aurais pas facilement laissé entrer des craignants Dieu. Hein, c'est tout juste si on les tolérait, tandis que dans la diaspora, c'était quand même une monnaie courante. Ils étaient des entourés de païens. Ouais. Donc, bien entendu, les Juifs dont il est question là, c'est ceux qui n'étaient pas devenus messianiques. Hein. Le petit clan des irréductibles, dont on reparlera d'ailleurs dans un moment. Et le fameux verbe « la fanatisère » en grec... Ça peut se traduire de plusieurs manières. Il y a l'idée de pousser les gens, stimuler, fanatiser, ameuter, etc. Ça fait partie de différentes traductions qu'on peut donner à ce verbe. Et il stimule qui ? Ben, les adorantes femmes, dirait le grec. Voilà. Celles qui ont l'habitude d'adorer Dieu via la synagogue. Donc,
elle donne quand même un peu l'impression qu'elle manque de sagesse face au discours qu'il y a eu, aux réactions de certains de la ville. Elles sont un peu, elles se laissent embarquer.
Oui, elles se laissent embarquer. Mais c'est peut-être pas pour rien que c'est celle-là qu'on a contactée.
C'est
des femmes influentes, donc des femmes connues, des femmes influentes dans le monde païen, vraisemblablement mariées à des gens qui ont des hautes fonctions au niveau de la ville ou de la région. Et c'est celle-là qu'on va essayer de manipuler. Il faut dire que c'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir un discours aussi performant que celui de Paul pour dire « mais non, ce Paul-là n'a pas raison ». Donc en fait, on voit bien dans le langage qui est utilisé en grec qu'il s'agit de convertir les idées. Donc vous avez entendu que, mais nous on va vous dire que l'idée c'est ça, c'est une manipulation finalement, une sorte d'endoctrinement, d'ailleurs le verbe fanatiser veut tout dire, d'endoctrinement pour qu'il y ait une pression sur les autorités publiques, pour qu'on tienne à distance Paul et Barnabas. Bon, il n'est pas encore question d'exclusion ici, mais en tout cas, on se méfie d'eux et on a envie de leur foutre les bâtons dans les roues.
Qu'est-ce qui nous laisse croire que... Enfin, parce qu'il y a la phrase devant, mais qui nous laisse croire que les femmes étaient dans les îles, provoquèrent une persécution. Il y a un point virgule, je ne sais pas moi...
Les Juifs.
Tu vois, est-ce que ça ne refait pas « mais les Juifs excitèrent » et puis « mais les Juifs provoquèrent », ça pourrait, tu vois. Voilà. Moi, sérieusement, quand je l'ai lu, je n'avais pas pensé que c'était les femmes qui étaient dans les îles.
Ben moi, je pense que c'est tous.
C'est tous, c'est l'ensemble.
Le grec n'est pas si clair que ça, mais tu as les Juifs d'un côté, les femmes et les notables, vers la fin de la phrase. Et les trois réunis, parce qu'on a réussi à faire tâche du coup, les trois réunis ben, provoquent... Alors une persécution, c'est un bien grand mot ici, puisqu'on sait par le texte qu'on ne leur a rien fait, à part dire aux gens de se méfier d'eux, et les tenir à distance, et peut-être ne plus les faire entrer à la synagogue, des trucs comme ça. Mais en fait, c'est plus une prise de position contre eux, qu'une manifestation violente et physique, etc., ce qui sera quand même le cas plus tard. Hein. Et au fond, ça va se borner à l'exclusion, au bannissement. On va faire en sorte qu'ils soient exclus de la ville et de la région, généralement la ville ayant, comme chez nous, des terres en dehors de la ville, de cette région-là. Ce qui explique d'ailleurs le départ... Voilà. Donc on peut peut-être passer à la fin du verset. Donc c'était persécution, c'est quand même...
un gros mot.
Mais c'est peut-être le début.
En fait, on peut le traduire de plusieurs façons. Mettre en fuite, ce qui est presque le cas. Chasser, courir après quelqu'un, poursuivre, persécuter. C'est les différentes traductions du verbe. Et on retrouve d'ailleurs le verbe « chasser » qui est différent un peu plus loin. Parce que vous avez une persécution contre Paul et Barnabas et les chasseurs de leur territoire. Et là, c'est vraiment un verbe beaucoup plus fort. « Ekbalo » en grec, c'est l'idée d'expulser, d'exclure, de jeter, de faire sortir, etc. Donc vraiment là, c'est sous la pression, sous la contrainte qu'ils ont dû partir de la ville. Alors, on peut imaginer quand même que tout ça s'est pas fait en 3 secondes. Il a quand même fallu convaincre ces différentes personnes, les femmes en premier lieu, les notables en second lieu, puis mettre en place quelque chose qui soit de l'ordre de la pression pour un peu pousser Paul et Barnabas dans leur retranchement. Et finalement, comme ça n'amenait pas de résultat, les autres continuant à évangéliser, à parler, à enseigner... ils ont décidé de les foutre dehors. Donc là, il y a vraiment une réunion qui a eu lieu pour décider qu'il serait persona non grata dans la ville et les environs. Voilà, donc pour moi, ça a dû prendre quand même un certain nombre de jours. De nouveau, on a une espèce de raccourci dans le texte. On ne voit pas ça apparaître, mais c'est ce qu'il a fallu comme temps pour décourager finalement Paul et Barnabas et les faire fuir hors de la ville. En tout cas, les faire fuir, les mettre dehors, pour être précis. Donc les faire taire, hein, en gros. En pensant sans doute avoir sauvé les meubles, hein, puisqu'on les a mis dehors, ben, on va être débarrassé de ce courant messianique et ce sera fini. Bon, là, ils se mettent un peu le doigt dans l'œil. On verra d'ailleurs plus tard pourquoi. Et ils les bannissent carrément de la ville et de la région, boutés hors des frontières, de ce petit coin de Pisidie. Et alors on a le verset 51, dont on a du mal à comprendre de quoi il s'agit. Ceux-ci ont secoué contre eux la poussière de leurs pieds, gagnèrent Iconium. Un petit détail quand même, Iconium, c'est pas juste à côté.
Non, c'est encore.
Est-ce que quelqu'un a été curieux pour voir?
Est-ce que c'était un signe de mépris?
Alors, ouais, on va essayer.
Ça se trouve déjà dans un autre endroit dans la Bible.
Oui, ça fait déjà. Hein,
quand Jésus envoyait ses disciples.
C'est en tout cas une expression assez rare. Oui. Et qu'on ne trouve pas dans l'Ancien Testament. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est sans doute une pratique plutôt celle du 1er siècle, peut-être un siècle avant, voilà, dépendant quelques siècles après. Mais on va essayer d'expliquer pourquoi.
C'est d'Antioche à Icône, est-ce qu'il n'y a pas presque 200 km
là? En tout cas, 130.
130.
Bon, c'est pour vous dire que ce n'était pas juste à côté. Ouais. Donc, ils sont bannis. Ils sont bannis et ils vont dans la prochaine grande ville, où il y a là aussi des Juifs, en se disant, bah, vu la distance, on va sans doute nous foutre la paix. Oui. Puis les autres ne sont peut-être pas encore au courant qu'on s'est fait exclure. Donc profitons-en. Voilà. Alors, secouer la poussière de ses pieds, c'est une expression bien araméenne, bien juive, qu'on ne retrouve pas dans l'Ancien Testament, je le redis. Elle était fréquemment utilisée au 1er siècle. Pour la raison est simple, la diaspora juive, elle est établie dans tout le bassin méditerranéen. Et lorsque les Juifs revenaient d'un territoire païen, pour entrer en Judée et à Jérusalem en particulier, et au temple de surcroît, ils avaient pour coutume de secouer de leurs pieds la poussière des terres païennes pour montrer qu'ils ne s'étaient pas laissés contaminer par les us et coutumes, les rituels ou les cultes de ces peuples, qu'ils étaient réellement juifs. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc au départ, ce n'est pas péjoratif. Au départ, c'est une manière de manifester « je suis juif, je le reste, et je ne suis pas entaché par des us et coutumes qui seraient d'origine païenne du pays d'où je viens. » Alors, c'est devenu évidemment par la suite un geste un petit peu plus fort. On peut imaginer ici que Paul et Barnabas exécutent ce geste pour signifier aux Juifs qu'ils quittent, qu'ils se sont rendus indignes. Ils sont indignes de recevoir l'Évangile, donc ils se débrouillent avec. Et ça rejoint, donc le texte que tu parles, c'est dans Matthieu 10, ou Luc 9 aussi, où on retrouve Jésus qui demande aux disciples d'agir de cette manière si on ne veut pas entendre l'Évangile, si on refuse l'Évangile, pour marquer qu'on est différent. Alors, est-ce que ça a un sens fondamentalement péjoratif? Je ne dirais pas. Mais en tout cas, c'est une manière de se démarquer. Vous ne voulez pas de l'Évangile? Eh bien, nous, on vous laisse, on se coule la poussière des pieds, on ne prend pas avec nous votre désobéissance ou votre incrédulité. On vous laisse avec. Et alors, c'est aussi une sorte de jugement, malgré tout. Parce que ça veut dire, ben, restez dans votre caca, finalement. Si vous pensez que c'est mieux d'obéir à la loi, rien que la loi, en oubliant la grâce de Dieu, la bienveillance de Dieu, la providence de Dieu, ben, tant pis pour vous. Vous ne voulez pas du salut, vous ne voulez pas du Messie, vous ne voulez pas de la vie éternelle, c'est votre problème, un petit peu, quoi.
Pardon, c'était Matthieu.
Alors, Matthieu 10, d'une part, verset 14, et puis on retrouve la même histoire dans Luc 9, au verset 5, à propos des disciples qui sont conviés par Jésus de pratiquer ce secouement des pieds.
Et Luc 10, 11 aussi.
Ok, d'accord. Alors, je ne l'ai pas noté. Je vais le rajouter.
L'histoire de secouer dans Luc 10. Il y a Luc 9 et Luc 10.
va vérifier ça.
surtout la dernière référence.
Ah oui.
Charge Elisabeth de vérifier.
Ouais.
Est-ce que il y a un lien avec Jésus qui veut laver les pieds des disciples, et Pierre dit non, pas moi. Et Jésus lui dit, il te suffit de que je te lave les pieds pour que tu sois entièrement
pur.
Quelque chose comme ça, non?
Oui, je vois de quel texte tu fais allusion. Je ne pense pas qu'il y ait un rapport.
Non.
Par contre, c'était quand même une coutume, chaque fois que tu recevais quelqu'un à la maison, de lui laver les pieds. Donc, pour le débarrasser des saletés du chemin, de la route, hein, qu'on faisait à pied les trois quarts du temps. Et là, ça avait plus une notion de purification, de pureté ou d'hygiène. Bon. Ici, je crois vraiment que c'est une manière de se désolidariser. Mm. C'est une manière de renvoyer les uns et les autres à leurs propres décisions, à leurs propres choix.
C'est ça.
Voilà. Mm. Alors, c'est un geste, évidemment, on peut aussi dire, et là, ça aurait un côté un peu plus péjoratif, que c'est un geste de rupture. Faire ça, au nez à la barbe de ceux qui sont derrière, c'est les renvoyer, quoi. Ça équivaut, allez, entre juifs, ça équivaut à les considérer comme des païens. Tu vois? Puisqu'au départ.
Est-ce que les juifs comprennent ça? Parce que tu dis que dans l'Ancien Testament.
Mais au 1er siècle, c'est la coutume. C'est Jésus qui en parle. Jésus lui-même, il fait référence en disant à ses disciples, mais faites comme ça. Même entre juifs, parce que. Pourquoi ils devaient secouer la poussière de leurs pieds? Parce qu'ils parcouraient la Judée. La Judée, c'est le domaine des juifs, c'est pas le domaine des païens. Donc déjà, Jésus avait commencé avec cette idée que ceux qui veulent pas de l'Évangile, tant pis pour eux. On les renvoie à ce qu'ils sont, c'est-à-dire à des gens qui sont assimilés au paganisme. Vous ne voulez pas du Messie, vous ne voulez pas de ce que les prophètes ont annoncé, restez dans votre pseudo-religion. C'est quand même très fort, au bout du compte. Et donc, quand Paul et Barnabas le font au nez à la barbe de ceux qui les chassent, notamment des juifs réactionnaires, il les renvoie à cette image du paganisme. On vous traite comme on traiterait les païens, finalement.
Bon. Je reviens à Luc 10. C'est Jésus qui dit « Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites « Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. »
Et renvoyant finalement à leur responsabilité de dire oui ou non.
C'est très fort.
Non, c'était pas un geste neutre. Je pense quand même que tout le monde n'avait pas envie de voir ça, nécessairement. Et donc, alors, de manière un peu lapidaire, au verset 51, on dit une fois qu'ils ont fait ça, gagne Iconium. Alors nous, on a l'impression, pouf, c'est la bourgade d'à côté, c'est à 500 mètres. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même assez loin. Ils se rendent à Iconium.
Pardon.
130 km au sud-est d'Antioche.
Je peux faire une remarque. Donc, dans le verset 52, il est mis. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Donc, les gens qui ont accepté, dans le verset 48, la parole du Seigneur, qui ont reconnu que Jésus est le Messie, ou c'est les païens qui se réjouissent ici. Donc, il y avait des gens qui étaient amers et fâchés, et les disciples de Jésus qui...
ceux qui sont fâchés, c'est ceux qui ont le pouvoir. Tu as bien compris la leçon, ils ont été chercher les gens de haut rang pour pouvoir les expulser, parce qu'à la base, les autres ne veulent pas qu'ils partent.
Mais ça n'empêche pas que les disciples, qui voient ça aussi... ils sont remplis de joie et du Saint-Esprit.
Tous les nouveaux croyants, c'est beaucoup de païens et pas mal de juifs. Donc c'est de nouveau une église complètement messianique qui célèbre ça. Mais finalement, ils partent, tant pis, mais nous, on est bien contents d'avoir découvert la troisième voie, la voie messianique. On y croit, dur comme fer. Et d'ailleurs, vous verrez, un peu plus loin dans les chapitres, quand ils reviennent, parce qu'ils doivent faire la route inverse. En fait, voyez-vous, on les suit maintenant depuis Antioche, en passant par Iconium, on va voir qu'ils vont à l'Istre puis à Derbé. Et finalement, ils font demi-tour parce que la voie romaine s'arrête là. Après, c'est des montagnes. On ne sait pas passer au travers pour aller en Galatie de l'autre côté. Donc, résultat, ben, on fait la route inverse. On reprend la voie romaine. On remonte par tous les endroits où ils ont été éjectés. Il fallait quand même avoir du culot. Hein. Un certain courage, quand même. Bref.
On peut supposer que ces disciples qui se sont convertis, ils ne vont plus à la synagogue. Que ce soit
alors, je
si continue, hein.
Oui, hein. Non, mais je pense que tu as raison. Il est probable que si ceux qui ont le pouvoir et qui ont chassé sont sans doute parmi les chefs de la synagogue aussi. Donc il est peu probable qu'ils continuent à aller à la synagogue à cet endroit-là. Ouais. Voilà. Maintenant, on peut tout imaginer parce que c'est des endroits où ça s'est passé comme ça pendant deux siècles. Il n'y a pas eu de problème. Donc, et surtout dans la diaspora. Ça, Jérusalem, c'est quand même une autre paire de manches. Donc, je répète, ils partent à 130 km au sud pour rejoindre Iconium. Iconium se situe en Galatie, aux confins de la Phrygie, de la Lycaonie, dont on parlera plus tard. Et cette ville est quand même perchée de nouveau à 1200 mètres d'altitude, non loin d'un lac. C'est une ville populeuse, il y a beaucoup de monde. Et une ville commerçante qui est au carrefour de plusieurs provinces, justement. Plusieurs provinces d'Asie mineure, donc de la Turquie d'aujourd'hui. Et on précise même, en acte 14 au verset 1, qu'il y réside de nombreux Grecs, hellénones au pluriel, donc des personnes d'origine grecque, des païens. Voilà, pour la petite histoire. Et donc, maintenant, pour reprendre le verset que tu as cité, 52... c'est là que je vous avais posé la question du bannissement. Est-ce que le bannissement est un échec? Ben, manifestement, la réponse est là. C'est tellement l'échec que tout le monde est bien content. Ils sont remplis de joie, remplis d'Esprit Saint. Ils ne se découragent pas devant le départ forcé de Paul et Barnabas. Ils les recevront à nouveau lorsqu'ils seront sur le chemin du retour. Et puis on se rend compte que les disciples en question sont nombreux à Antioche. Donc ça ne s'est pas amenuisé à cause de la persécution ou du bannissement. L'Église est restée telle qu'elle était, telle qu'elle a été en tout cas jusqu'au moment de leur départ, et peut-être même qu'elle a cru dans le sens de croissance, peut-être même qu'elle a cru pendant leur absence, parce qu'on ne sait pas combien de temps aura duré le travail à Iconium, le travail à Lystre, à Derbe et dans les environs, mais sans doute, de nouveau, plusieurs semaines ou mois. Et donc, pendant ce temps-là, ben, eux, ils continuent à être l'église messianique du coin. Ils sont dans la joie malgré la persécution. Ils sont dans la joie malgré le départ de leurs enseignants. Heureusement, il y a des juifs qui se sont convertis. Donc, nécessairement, il y a des enseignants. Il y a des juifs qui ont pris le relais. Eux connaissent l'écriture. Donc il faut continuer à l'enseigner aux païens qui, eux, ne la connaissaient pas ou ne la connaissent pas du tout. Et aux païens qui ne sont pas encore convertis non plus, quoi. Donc ils sont dans la joie, ils se mettent au boulot. Et l'esprit les accompagne, manifestement. Et elle résistera, cette église, puisqu'on voit dans les versets 21-23 du 14e chapitre qu'au moment de leur retour, l'Église est toujours bien là. Et d'ailleurs, ils vont désigner alors des responsables officiellement. Et voilà, la propagation de l'Évangile se poursuit désormais à Iconium, sans Paul et Barnabas.
C'est un miracle, ça, je trouve.
Ah oui, oui, parce que
qu'ils sont obligés de partir, ne peuvent pas nommer des anciens, ne peuvent pas nommer des enseignants, mais Dieu fait son œuvre, et comme tu dis, probablement, ouais, on imagine qu'il y a eu des juifs capables d'enseigner, mais ces juifs capables d'enseigner ont dû revoir tout leur enseignement sur base du Messie qu'ils ne connaissaient pas.
Donc, nouvelle interprétation des prophètes, par conséquent. Ouais. Maintenant, pour eux, ça veut dire quelque chose. C'est une adaptation, ça, c'est clair. Mais c'est tellement... Enfin, je le dis souvent dans cette étude, mais c'est tellement évident dans le monde juif que tout le monde a droit au chapitre. Tu verras sur certains sites, si vous allez sur des sites du judaïsme, beaucoup de ceux qui enseignent ne sont pas rabbis. T'as plein de gens intellectuels qui ont une petite formation, mais qui n'ont pas fait des études rabbiniques, et qui enseignent sur l'écriture, hein, verset à verset. C'est assez impressionnant. Quand tu te rends compte qu'ils ont tous, juifs ayant un ministère ou juifs sans ministère, ils ont tous un bagage biblique impressionnant, quoi. Parce qu'ils lisent sans arrêt la Torah. Ouais. Alors que nous, c'est un peu moins vrai. Alors évidemment, les païens, eux, ils sont table rase, ils ne connaissent rien à rien, donc ils sont bien obligés, pour continuer à vivre, à grandir dans la foi, d'être enseignés par les juifs dont ils ont bien besoin. Et ça ne leur pose pas de problème, manifestement. Mm-hmm. Voilà, donc on a fini notre 13e chapitre.
Parce que nous autres, finalement, quand on parle de l'Évangile, on parle beaucoup quand même des lettres de Paul, hein, qu'il n'avait pas.
Non.
Il n'avait que l'Ancien Testament.
Alors, pour ce premier siècle-là, c'est très clair.
Ça va bien.
Qu'il y a uniquement l'Ancien, enfin, ce qu'on appelle la Torah, l'Ancien Testament, et que, et encore, tout le monde n'a pas tout, hein, dans toutes les contrées. Quelques lettres qui circulent, mais qui peuvent être d'ailleurs des lettres qui n'ont rien à voir avec les apôtres, par exemple. Et puis il y a des gens comme Paul, Barnabas et d'autres qui circulent d'une ville à l'autre, eux parce qu'ils ont été mandatés par l'Esprit Saint, et d'autres parce qu'ils voyagent pour leur vie, pour leur commerce, etc. Et qui, étant devenus juifs messianiques ou païens messianiques, si tu veux, ben, continuent à dialoguer avec tout le monde de ce qu'ils ont découvert, voilà, de leur nouvelle croyance. Et c'est pour ça que l'Évangile fait quand même tache d'huile assez rapidement dans le bassin méditerranéen. Parce qu'on voyage quand même beaucoup à l'époque. Hein. C'est assez surprenant, quoi. Je trouve qu'on est beaucoup plus sédentaires, nous, finalement, à cause du travail, hein, que à cette époque où beaucoup de gens étaient artisans, beaucoup de gens voyageaient, beaucoup de gens étaient dans l'armée aussi, parmi les païens. Bon, voilà, ça circulait. Hein. À Rome, tu changeais de territoire assez régulièrement aussi. Bref, voilà. Est-ce que vous êtes prêts à entamer le 14e ? Donc là, on va entrer à Iconium, on va découvrir. Bon, il n'y a que 7 versets. Si quelqu'un veut les lire, c'est très bien.
À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Et ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de
Lycaonie,
voilà, et Lystre et Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle.
Voilà. Alors, on a un peu l'impression d'un récit bis, hein. Parce que s'il se passe la même chose que dans la ville précédente, en gros, c'est-à-dire ça commence bien, hein, au premier verset, il se passa la même chose. Voilà. Donc on aurait pu se priver des 6 versets qui suivent, mais non, je rigole. Hein. Il se passa la même chose, donc on est déjà bien sur les rails. Quoi, hein.
On a exciter, on a aigrir. Hein, des beaux mots, hein.
Alors, Iconium, c'est quand même une ville gréco-romaine, avec une forte colonie romaine, qui approche, c'est un peu moins, mais ça approche la taille d'Éphèse et de Smyrne, qui étaient quand même d'assez grandes villes. Hein. En même temps, c'est la capitale de la Galatie. Donc, Iconium, c'est pas n'importe quelle ville, C'est la capitale administrative de tout grand territoire. Et on y parle une langue que Paul et Barnabas ne comprennent pas. Parce que la langue parlée courante, c'est le phrygien dans cette région. Alors évidemment, la classe supérieure connaît le grec, et les commerçants souvent aussi, puisqu'ils commercent dans tout le bassin méditerranéen grâce à cette langue qui correspond à l'anglais d'aujourd'hui, si vous voulez. On y parle le phrygien, on verra d'ailleurs que ça a une importance particulière dans la suite du récit. Et la communauté juive y est de moindre importance qu'à Antioche. Donc déjà, on n'a pas une très grande communauté. Et c'est là que nos deux témoins, ils vont poursuivre leur ministère, hein, puisque loin d'être découragés par ce qui s'est passé précédemment à Antioche, hein, ils ne sont pas du tout refroidis, les gars, et ils continuent. Donc malgré l'aventure un peu périlleuse précédente, ils recommencent à Iconium. Et donc je disais, le verset commence bien avec ce « il se passa la même chose », sous-entendu même scénario, avec un passage obligé par la synagogue, l'annonce de l'évangile et le succès foudroyant. Parce que c'est, quand on dit qu'il se passe la même chose, c'est la même chose, exactement. Il est possible. Et c'est là que nous avons du mal, parce que ici tout est résumé en 7 versets. Et on a l'impression qu'en un seul verset, on a déjà tout dit de ce qui va se passer, puisque le verset se termine par juifs et grecs, se tournent en grand nombre, ils deviennent croyants finalement, se tournent en grand nombre vers cette voie messianique qu'il aurait enseignée. Alors quand même, on doit bien se rendre compte que, de nouveau, rien que dans ce verset, il y a une durée, la durée nécessaire à l'annonce de l'Évangile, la durée nécessaire au changement de comportement, autant chez les païens que chez les juifs. Et c'est peut-être plus dur pour les juifs que pour les païens. Dites-vous bien cela. Changer d'opinion pour un juif au sujet de l'application de la loi et tout ça, c'est bien plus difficile que de sortir du paganisme et d'embrasser une religion de liberté et de non-crainte. C'est plus facile pour les païens. Mais il faut du temps quand même. Donc il est possible que leur enseignement, déjà, se soit donné en plusieurs périodes et pas seulement en un jour. Et c'est d'autant plus vrai, je le disais tout à l'heure, que le langage grec ne pouvait toucher que la classe sociale la plus élevée. Donc, soit ils ont prêché uniquement à la classe sociale élevée, ce qui serait très étonnant, soit ils ont été traduits en phrygien, donc d'abord enseignés en grec, être traduits en phrygien, et rien que ça, ça demande aussi du temps, le double du temps, tout simplement, pour toucher quoi ? La majorité de la population, manifestement, d'après ce qu'on comprend, parce que le grand nombre, c'est pas 3 pingouins et 2 éléphants, je veux dire, il y a quand même bien plus qu'on l'imagine, autant des juifs que des païens. Et on nous dit donc, fin du verset, des juifs et des grecs, en grand nombre, devinrent croyants. Alors, arrêtons-nous 2 minutes sur grec, parce que ça vaut quand même la peine. On avait déjà ce type d'expression en 11-20, par exemple, au sujet des Grecs. Ce terme va désigner des non-juifs, ça c'est très clair. Mais on peut imaginer que cette mention ici est importante. Pourquoi pas nous dire des gentils, tout simplement, des païens ? Cette mention est importante car ça laisse entendre que de nombreux Grecs, alors soit grec-grec nationalité, soit parlant le grec, alors ça rejoint un monde un peu plus vaste, donc, disons des gens d'origine païenne, pour faire court, fréquentaient déjà la synagogue. Parce que sinon, la phrase n'a pas de sens. Donc, ce sont des gens qui, à tout le moins, étaient intéressés par le Dieu d'Israël, sans doute des craignants Dieu, peut-être pas des prosélytes, mais il y en avait déjà pas mal, apparemment. Et le fait qu'ils se convertissent à la voie messianique, ça va faire boule de neige dans la société de la ville d'Iconium. Donc ça va prendre une tournure exemplaire. Voilà, je crois qu'on a dit l'essentiel. En tout cas, de très nombreux païens, manifestement, sont devenus croyants, ont embrassé cette voie messianique, ont été transformé finalement par cette annonce faite par Paul et Barnabas. Et verset 2, puisqu'on est dans la même chose, verset 2, qu'est-ce qui se passe ? De nouveau, un petit groupe. Alors, ici, dans la tome, on a traduit des Juifs qui ne s'étaient pas laissés convaincre, dont ceux qui n'ont pas adhéré à la proclamation de l'Évangile, tout simplement, et qui résistent activement. Le grec dit, pour être très précis, je ne sais pas ce que vous avez dans vos différentes versions, mais le grec dit « ceux étant incrédules ». Donc parmi les Juifs, ceux qui n'ont pas voulu croire à la voie messianique, ceux qui ne croient pas au Messie, qui ne reconnaissent pas Jésus comme Messie, etc. Et il utilise, alors pour dire ça, le grec utilise un verbe, apeitheo, qui peut aussi vouloir dire « désobéir » ou « ne pas obéir ». Donc être incrédule, c'est ne pas obéir. C'est un peu ça qu'on pourrait tirer comme conclusion. Une sorte d'insoumission, si vous voulez, à ce qui est proclamé. Donc on retrouve ici l'idée que ne pas croire, c'est peut-être bien désobéir. Ne pas croire aux promesses, on en avait longuement parlé précédemment, ne pas croire aux promesses des prophètes ou aux promesses des patriarches faites aux patriarches, c'est une manière de désobéir, de contrevenir à la volonté de Dieu. Donc on est de nouveau un peu dans ce discours ici avec Luc, lui qui a pourtant accrédité, attesté que Jésus était le Messie. D'accord ? Donc c'est un peu ça qui se joue. Donc on a un petit groupe d'irréductibles, c'est pas des Gaulois, mais ça y ressemble, qui vont faire quoi alors ?
Pareil qu'à Antioche.
Exactement.
Exciter la bande. Mm-hmm.
En s'attaquant aux païens, ils prennent d'abord les païens comme acolytes, si vous voulez, et à les inciter à une certaine malveillance à l'égard des frères, donc à l'égard de ceux qui se sont déjà tournés vers la voie messianique.
Quel changement ça a dû provoquer, hein, parce que des juifs, à un moment donné, il y a comme une épée qui sépare, il y a ceux qui disent « Ah, Jésus est le Messie mm-hmm. », et ceux qui vont persister dans l'ignorance et qui vont devenir agressifs. Mais alors, quand on pense à ces juifs, ces deux catégories de juifs, ils ne devaient peut-être plus se supporter. Il y a peut-être eu des persécutions contre leurs propres frères juifs qui se sont convertis aussi. Donc, on aimerait avoir un film qui nous montre qu'est-ce qui s'est passé pendant et après.
En tout cas, ces groupes de juifs radicaux, si tu veux, ou très orthodoxes, ils s'associent, et là c'est quand même marrant, parce que eux qui sont contre le paganisme s'associent aux païens, contre les frères de la nouvelle voie. Hein. C'est pas triste quand même, parce qu'ils s'associent à des païens non convertis pour arriver à leur fin. Et leur fin, c'est quoi ? C'est de faire du tort. Faire du tort à ceux qui sont devenus frères en Jésus. Ceux qui ont embrassé la voie messianique, autant les juifs que ceux d'origine païenne, les grecs, hein, dont il est question. Est-ce que tout ça fait peur à Paul et Barnabas ?
Apparemment, non.
Alors là, au verset 3...
Ils ont déjà eu une fois. Donc...
Moi quand même, je tire mon chapeau. Hein, parce...
C'est le Saint-Esprit qui agit de soi-même. Pas...
Alors, il faut quand même bien se rendre compte, parce qu'on l'oublie très souvent en lisant les actes, mais Paul ne risque pas grand-chose. Paul est citoyen romain. Ah, oui. Il est dans des colonies romaines. Si jamais on en veut à sa vie, lui, il sort son joker. Attention, hein, je suis romain. Si vous ne voulez pas être puni par la loi romaine, vous avez intérêt à faire gaffe à ce que vous faites. Donc, je pense que Paul n'a franchement pas peur. Hein. C'est clair, il se sent à la fois protégé par Dieu et protégé par cette espèce d'immunité en tant que lui-même citoyen romain.
C'est pas pour lui qu'il a été choisi, je pense.
Peut-être bien, oui, pour aller vers les païens et dans les territoires où les Romains régnaient. En tout cas, le texte nous dit clairement, Paul et Barnabas prolongent leur séjour. Okay. Et en grec, c'est assez fort, en français, ça l'est moins. Moi, la tope dit un certain temps. On dira un certain temps, 3 jours peut-être. Non. En grec, c'est vraiment assez de temps. Assez de temps, sous-entendu, pour accomplir ce qu'ils ont à faire. D'accord ? Alors, les circonstances défavorables, ça n'inquiète pas du tout nos amis évangélistes. Bien au contraire, ils décident de persister dans leur mission, et il s'écoule ainsi un certain temps, de nouveau, que Luc ne nous donne pas la clé, mais en tout cas, voilà, on sait que c'est pas une question d'heure, c'est une question de jour. Hein. Mais pourquoi ils persistent? C'est une des questions, je pense, que j'avais mis dans... Alors, ils ont leur mission, ils ont leur agenda, ils ont décidé de faire un certain nombre de choses.
Ils ont des résultats.
Exactement. Et c'est la suite du verset, ça.
Les enseigner, évidemment.
Pourquoi ils osent continuer? Alors, d'abord, il y a leur assurance en Christ. Hein. Je crois qu'ils sont fondés sur le Seigneur. C'est ce que nous dit le texte. Mais surtout, ils rendent témoignage d'une parole qui n'est pas la leur. Ce n'est pas un nouveau discours politique, c'est un discours sur la messianité de Jésus. C'est un discours sur un Dieu qui a condescendu à venir parmi les hommes régler la problématique de l'humanité. Et c'est ça qu'ils annoncent. Et non seulement ça, alors c'était la question du pourquoi que j'avais posé. Qu'est-ce qui se passe d'autre qui est fondamental pour eux comme indication?
Ils voient que Dieu appuie leur enseignement.
Alors, ce n'est pas simplement un enseignement rationnel. Ce n'est pas simplement j'essaye de convaincre les gens intellectuellement. Il se passe en plus de ça un certain nombre de signes qu'on ne peut pas ne pas voir, autant les païens que les juifs, mais j'y reviendrai dans un petit moment. Donc, leur persévérance, elle est fondée sur leur croyance au Seigneur, sur la parole de grâce de ce Seigneur-là. Il y a aussi la manifestation lui-même du Seigneur, une sorte d'invitation à la certitude, si je puis dire, à poursuivre ce ministère en cet endroit précis. Je remarque aussi au passage que le texte souligne bien qu'il s'agit de la parole de sa grâce, la grâce du Seigneur. On pourrait pas presque dire qu'avant d'être une parole de salut, c'est d'abord et avant tout une parole de grâce de la part de Dieu. C'est-à-dire, avant toute contrition, avant toute idée de repentance, la parole du Seigneur est une parole de grâce. Donc, quoi que vous ayez fait dans la vie, quoi que vous pensiez, quelle que soit votre religion, nous, on vous amène la parole de la grâce du Seigneur. Maintenant, c'est à vous de faire un choix avec ça, quoi. Et donc, le texte précise en leur donnant d'opérer de leurs mains des signes et des prodiges. Alors, c'est un terme qu'on a déjà entendu. Signe en grec, c'est séméia. On pourrait presque le traduire signal, le signal de quelque chose. Et prodige, on pourrait faire plus simple en disant merveille, il se passe des choses merveilleuses, sans doute des guérisons, hein, on ne nous fait pas la liste ici de quels sont ces prodiges. Et évidemment, la conjonction des deux, des signes particuliers, des signes qui attestent de la divinité du Messie, ou des signes qui seraient plutôt bienveillants, providence, guérison, etc., sont des signes qui ne peuvent être qu'une manifestation du divin. Alors, c'est déjà vrai pour les Juifs, c'est d'autant plus vrai pour les païens. Parce que les païens adorent des dieux, vous vous en rappelez, ils adorent des dieux dont ils ont peur. Et ils offrent des sacrifices, parfois même humains, pour amadouer les dieux. Et puis là, ils voient un dieu agir avec grâce, avec bienveillance, guérissant sans doute des aveugles, des boiteux, des tout ce qu'on veut, s'occupant de la veuve et de l'orphelin, tout ça est très très loin des religions païennes du moment. Ils découvrent un Dieu attentionné, un Dieu attentif à leur situation propre. Et ça donne du zèle, alors autant aux deux témoins que parmi la population qui se tourne vers ce Dieu-là, quoi. Mais malgré ça, verset 4, malgré ça, tout d'un coup, ça se termine bizarrement. Alors, c'est la population. Hein. Dans la population, il y a une division qui s'opère. J'ai presque envie de dire une division naturelle. C'est nous qui avons du mal à comprendre ça, mais... Alors on nous dit, les uns étaient pour les juifs, c'est-à-dire pour le clan des réactionnaires, et les autres pour les apôtres. Et Vous remarquerez, le mot apôtre ici, c'est la première fois que Luc utilise ce terme pour parler de Paul et Barnabas. Mais alors, on va essayer d'en dire quelque chose dans un moment. Alors, en grec, on nous dit, je traduis, « la ville fut déchirée ». C'est le verbe « schizo » qui est utilisé, qui a donné « schizophrénie », par exemple, en français aujourd'hui. C'est une ville déchirée en deux. D'un côté, ceux qui pensent qu'il faut soutenir les Juifs, de l'autre côté, ceux qui sont plutôt pour l'enseignement de ces fameux apôtres. Et donc, ces deux camps s'affrontent en termes des idées, à défaut de se battre. Hein. Ils s'affrontent sur le terrain des idées, ils ne sont pas d'accord entre eux. Il y a ceux donc qui tiennent pour le clan qui est attaché à une certaine orthodoxie du judaïsme, en pensée et en pratique. Et puis, de l'autre côté, il y a ceux qui ont accepté l'enseignement des apôtres en question, le clan, j'ai envie de dire, du renouveau spirituel, en gros. Alors, on va s'arrêter deux instants sur apôtres. Donc, je le disais, c'est quand même la première fois que Luc utilise ce terme. Terme qu'il va réutiliser au verset 14, d'ailleurs, dans le même chapitre, pour parler de Paul et Barnabas. Et sans doute, alors là, je vais essayer de vous convaincre, hein, sans doute à prendre au sens étymologique, c'est-à-dire apostoloi, c'est tout simplement le mot « les envoyés ». Or, nous savons qu'ils ont bel et bien été envoyés, d'accord ? On a découvert en 13, au chapitre 13, versets 1 à 4, qu'ils ont été mandatés par l'église d'Antioche de Syrie, au nord d'Israël, pour aller vers les païens. Donc, ils sont effectivement des envoyés. Ils ont une mission. Mais peut-être que Luc joue sur les deux facettes du terme. À la fois l'étymologie, c'est clair, ils ont été missionnés, envoyés, mais aussi... Peut-être souligne-t-il le rôle particulier de ces deux hommes. Parce que ces deux hommes, ils exercent hors de Judée. Ils ne dépendent plus de Jérusalem. Et ils sont là pour faire quoi ? Pour fonder des communautés messianiques en territoire païen. C'est ça leur principale mission, avec l'inspiration de l'Esprit-Saint, bien entendu, ou guidée par l'Esprit-Saint. Et... vous remarquerez que c'est les deux seules fois où Luc va leur donner ce terme d'apôtre dans le même chapitre. Partout ailleurs, dans les Actes, l'évangéliste va utiliser le terme, ce terme-là pour désigner, comme Pierre d'ailleurs, comme dans la tradition de Pierre, les 12 de l'église de Jérusalem. Donc on voit que peut-être Luc joue sur deux tableaux. Il essaye de dire hein, « ceux-là même qu'on a envoyés sont devenus les apôtres des territoires païens. Vous, vous en avez 12 à Jérusalem, mais il faut au moins en ajouter 2. » Parce que Pierre, il est dans les deux camps. Il a été autant dans le domaine Jérusalem que dans le monde païen. Et il y retournera d'ailleurs, Pierre, encore dans le monde païen. Lui, il est à cheval sur les deux, mais Paul et Barnabas, eux, non. Ils sont uniquement en territoire païen. Pour faire ce job-là, en tout cas. Je trouve ça assez intéressant, parce que même si on pense que Luc joue sur les deux tableaux, il y a une réalité. Oui, c'est une réalité qu'on ne peut pas contester, qu'ils sont réellement ceux qui fondent des églises, ceux qui ont été envoyés pour cela. Peut-être que j'étais un peu vite, là, non ? Ça, c'est bon... l'essentiel. Hein. Ouais, je crois que c'est bien comme ça. Et puis alors, on atterrit au verset 5. À moins que vous ayez une question, n'hésitez pas à arrêter quand il faut.
Et ça laisse une porte ouverte à ceux qui se disent apôtres maintenant.
Oui.
S'il y en a plus que 12.
Oui, en tout cas, si on prend le mot apôtre comme fondateur de communauté, ça pourrait encore se concevoir. Ce que j'aime pas, c'est le titre, parce qu'il a... Enfin, je pense que l'usage est plutôt ronflant que basé sur une réalité fondatrice, tu vois. Beaucoup de gens se sont appelés prophètes, même aujourd'hui. Oui, hein. Aussi ouais, bien chez les blancs que chez les noirs. Parce qu'on dit non, c'est les bambous là. Non, non. Je trouve ça partout. Partout. En Amérique du Nord, en Europe, on a de plus en plus de prophètes. Hein. Bon, et je rigole, mais... Quand même. Parfois, ça ne me fait pas nécessairement rire.
Non,
alors, est-ce que vous avez observé quelque chose au tout début de ce verset? Verset 5. Est-ce que ça ne vous choque pas? On dit païen et juif,
oui.
Alors que juste avant, on avait le contraire.
Oui.
C'était l'ordre, les juifs qui,
oui.
Hein,
c'est
qui dominaient oui. Dans cette relation, oui, et tout d'un coup, on inverse.
Moi, j'ai le même sens, juif et non-juif.
Ça, ah oui, c'est vrai?
J'ai le même deux.
Oh. Moi, pas.
Eh bien, ce n'est pas juste.
Ah non.
Tu peux scribouiller ta Bible.
Louis II, c'est « Et comme les païens et les juifs, de concert avec le chef. »
Voilà, exactement. Donc, dans les deux camps, on a rameuté les chefs autant du côté païen, puisque c'est eux qui dirigent la ville, que du côté des chefs, des juifs, chefs de clan, chefs de la synagogue, tout ce que l'on veut. Et tous ensemble, ils décident de faire quoi? Alors, ça dépend des versions.
De les outrager, les lapider.
Oui. Donc, ultimement, ce sera la lapidation, donc la mort. Mais au début, on va commencer par un peu leur faire peur, outrager dans le sens de propos violents, de menaces, de tout ce que l'on veut. C'est un peu comme ça que ça commence. Et on pourrait dire, finalement... La manœuvre des juifs radicaux, elle a finalement gagné du terrain. Et désormais, les chefs religieux et les chefs politiques sont unis dans le projet de s'en prendre violemment aux apôtres, enfin ces fameux hommes qu'on appelle maintenant apôtres, allant même jusqu'à prévoir ou vouloir les mettre à mort. Il précise même comment ? Par lapidation. Or, étrangement, la lapidation n'est pas nécessairement... une coutume païenne. Donc on a consenti que les juifs radicaux puissent faire exécuter ces fameux apôtres par la peine de mort normale établie en Israël, etc. Donc je disais, notez bien au passage que les païens sont cités ici en premier. Et ce petit détail lucanien, de nouveau, veut sans doute dire quelque chose. En tout cas, on peut en déduire que sans doute... parce que leur nombre est bien plus élevé que celui des juifs radicaux, c'est les païens qui ont la main dans cette affaire. Et les païens, évidemment, ceux qui ne se sont pas tournés vers la voie messianique, hein, sinon ça n'aurait pas de sens. Quoi. Et alors, et là je vois que les versions variaient dans ce que tu as lu tout à l'heure, et là, ce qui se passe, c'est donc maintenant on est quand même devant un danger bien plus grave... que celui d'Antioche. Là, ce n'est pas simplement on vous expulse. C'est si vous continuez, on vous tue. D'accord ? Alors, il faut bien être conscient de cela. Et étrangement, de nouveau, on voit que même si c'est les païens qui ont la main, les juifs ont quand même gagné une manche. Parce qu'en fait... les païens, d'après les lois de l'époque, et notamment de la ville, ne pouvaient pas mettre à mort des gens. Si des gens étaient fauteurs de troubles dans une ville, on les foutait dehors, manu militari. C'est tout. C'est la seule sanction qui aurait dû être appliquée à Paul et Barnabas. Et étrangement, ça va plutôt dans le sens des juifs. Vous savez que les païens ont consenti d'aller au-delà de la loi... et donc de les trucider, puisque les juifs disent qu'il faut le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en ça que les juifs ont gagné une manche dans cette affaire. Et c'est au moment où Paul et Barnabas réalisent cela, qu'ils se disent, bon, là, ça va mettre un terme à notre enseignement. Donc là, où on fait le choix du martyr,
où
on fait le choix de continuer la mission. Et apparemment, ils sont convaincus. Alors, c'est pas pour sauver leur peau, mais... je pense qu'ils sont réellement convaincus de devoir continuer la mission qu'ils viennent à peine d'entamer quelques mois auparavant. D'accord ? Donc comment Dieu voudrait que ça s'arrête puisqu'on nous a missionnés pour aller en territoire païen, faire des églises dans toutes les villes où on passe. Donc là, non, quelque chose qui ne va pas. Et dans leur sagesse, donc, alors le grec est un peu plus soft que dans nos Bibles. Parce que moi, par exemple, la Top dit « conscient de la situation hein. ». En fait, littéralement, si on traduit, alors c'est pas trop facile, mais on pourrait traduire par « ayant remarqué le changement d'attitude », sous-entendu, la violence qui se mue en peine de mort potentielle, etc. On peut aussi traduire « s'étant aperçu hein. ». Ils se rendent compte que la mission risque de s'arrêter là. Et je ne pense pas qu'ils aient peur pour leur vie. Je pense qu'ils ont peur pour l'Évangile. Pour la non-propagation, la non-proclamation de l'Évangile, la non-messianité de Jésus par conséquent. Et eux, ils veulent continuer. Donc ils n'ont pas beaucoup de choix. Soit ils restent, et ils prennent le risque d'être mis à mort, tôt ou tard, même si c'est totalement illégal. Bien sûr, ils mourraient en martyr. Bien sûr, sans doute que les églises qu'ils ont semées au passage continueraient d'exister, probablement. Mais finalement, pour eux, la mission est plus importante que le côté martyrologique, si vous voulez. Et donc, ils préfèrent... Alors, le texte est très clair en grec. Je ne sais pas si ça l'est en français. Moi, j'ai dans la tobe, ils cherchèrent refuge, tu vois, dans les villes de l'Icaonie. Mais en fait, le texte est grec. Ils foutent le camp en vitesse. Ils s'enfuient. Ils fuient avant l'exécution, finalement. Donc, ils sont contraints de partir rapidement. Je suppose que les traducteurs sont prudents parce qu'ils n'osent pas envisager qu'on puisse fuir le martyr, tu vois. Je pense qu'il y a un petit côté, là, qui a retenu nos ancêtres et puis nos traducteurs actuels. Oui. On est beaucoup trop prudents. En fait, c'est une stratégie. Ils préfèrent fuir devant ça que de perdre la possibilité d'annoncer l'Évangile. Et ils fuient où ? Ben dans la province suivante, dans la région suivante, l'Icaonie, qui fait aussi partie de la province romaine de Galatie. C'est un très grand territoire, la Galatie, avec différentes peuplades et donc différentes langues aussi. Et là, ils fuient vers la Lycaonie, région où il n'y a quasi pas de juifs. Alors ça, c'est intéressant. Ce n'est pas leur choix. On est bien d'accord. Eux, ils auraient voulu rester là où ils étaient, dans des grandes villes où il y a des juifs sur qui on peut compter pour bâtir l'église messianique de demain. Ben non, là, ils sont obligés de foutre le camp et ils se retrouvent en territoire païen, à presque, on va dire, à 90% païen. Et puis, tu as quelques petites communautés juives. Mais ils ne vont pas abandonner leur stratégie pour autant. On va toujours commencer par les Juifs. Hein. Donc ils fuient dans une autre région. Alors pour qu'on ait une petite idée, je ne sais pas si certains ont eu le temps de regarder où se trouvent ces deux villes qui sont citées, et deux villes et alentours, hein, parce qu'on oublie de nous dire qu'il y a des tas d'autres choses à côté, mais c'est ce que le grec dit en tout cas. Lystre d'abord. Bon, c'est pas tellement loin, c'est pas tellement loin d'Iconium. Hein. Je dirais une bonne journée de marche si on marche bien vite. Quand même 40 km, hein. 40 km au sud d'Iconium, sur un plateau relativement aride, désert, non fertile, au pied d'une grande montagne qu'on appelle, si on traduit, la montagne noire, une région pauvre et habitée. Oui. Montagne Noire, c'est son nom. Et qui existe toujours, d'ailleurs, hein, cette montagne, toujours aussi haute, habitée essentiellement par des païens. Donc, on sait déjà que la population qu'ils vont côtoyer sont des gens qui n'ont pas de grands moyens. C'est pas une colonie romaine. C'est des pauvres gens qui se débrouillent pour survivre. Et la deuxième ville dont il est question, Derbe, est à 75 km au sud-est de Lystre. Donc, si vous voulez, on a Iconium ici, Lystre juste en dessous, légèrement comme ça, et puis après, pouf, on part au sud-est, 75 km plus loin, au bout de la route, j'ai envie de dire, au bout de la voie romaine. Une ville très coincée entre l'Isaurie et la Cappadoce, pour ceux qui ont déjà entendu parler de la Cappadoce, c'est ce merveilleux territoire avec des espèces de cheminées qu'on appelle les cheminées, les fées, ou je ne sais plus comment les...
On a vu ça à la télé.
Très, très bien. Et dans lesquelles, d'ailleurs, comme c'est une pierre très friable, non, au contraire, très friable, beaucoup d'ermites ont construit des monastères dans cette région de Cappadoce, donc le christianisme, hein, d'accord. Alors, peut-être j'ai oublié de vous préciser une chose, mais ce fameux iconium qu'il quitte pour aller là, ça va devenir, quelque temps après, et les inscriptions archéologiques le démontrent, la ville, l'épicentre majeur du christianisme en Asie mineure. Donc la ville dont ils ont été chassés manu militari va devenir peu de temps après la capitale, hein, du christianisme qui va inonder toute l'Asie mineure. Donc c'est pas rien. Ce travail, ça leur a coûté, mais en même temps, ça a produit un certain fruit. Et alors tout se termine, alors, comme les contes de fées, hein, verset 7, là aussi, ils annoncèrent la bonne nouvelle. Donc sous-entendu, là aussi, c'est la Lycaonie, les environs de l'Istre et ses environs, Derbé et ses environs, puis après, ben, c'est les montagnes, il n'y a plus rien, on en fait marche arrière. Hein. Mais ça veut dire quoi? Cette espèce de belle fin, comme ça, nous dit une chose, c'est que malgré les expériences difficiles, et on verra dans les suites des versets que ça va être compliqué et difficile, particulièrement pour Paul, malgré les expériences difficiles, Paul et Barnabas poursuivent avec courage leur évangélisation de territoires beaucoup plus païens que ce qu'ils n'ont déjà fait en réalité. Hein. Et la formulation de cette phrase, ils annoncèrent la bonne nouvelle, ça nous laisse aussi entendre qu'ils sont passés à Lystre et à Derbé un certain temps, beaucoup de temps, pour les mêmes résultats qu'ailleurs. Donc ailleurs, on avait vu la conjonction juifs messianiques païens qui, comme une vague déferlante, crée une église en quelques semaines, alors que là, on est en territoire païen, il n'y a donc pas d'aide, il n'y a pas de juifs. Vous voyez, ben, il y en a quelques-uns hein, quand même, mais il n'y a pas autant de juifs qui vont se tourner vers la voie messianique pour devenir les piliers de l'église de demain, les enseignants de l'église de demain. Et à mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles ils sont restés un certain temps dans cette région, jusqu'à ce que nous découvrirons ce qui va les faire repartir de là dans la suite du texte. En tout cas, assez de temps que pour y fonder des églises, en gros.
Il y a une différence dans l'ouverture d'esprit, à mon avis, entre les Juifs et les païens, non ?
Mais ouais, comme je le disais tout à l'heure, plus facile de convertir un païen qu'un juif.
Ah oui, mais dans la compréhension... Tu te fais plus facilement comprendre d'un juif qui a la même base qu'un païen qui a des religions.
Alors, enfin, on verra.
C'est vrai que tu viens avec un message.
Tu verras dans la suite du texte, quand on l'abordera, que le discours de Paul dans ces villes est un peu différent de ce qu'il faisait dans les synagogues.
Au lieu d'appuyer
sur l'histoire biblique, les patriarches, les prophètes et tout. Eh bien, il va appuyer sur la providence. Nous, on a un Dieu, mais c'est un Dieu providentiel. Ouais. C'est un Dieu bienveillant. Nous, on n'a pas peur de notre Dieu. Tu vois ? Bon, il va les prendre à rebours avec une réalité biblique quand même. Il y a un fondement biblique à ça. Et c'est très intelligent, je veux dire. Mais là, contraint et forcé, il n'a pas le choix. Ils n'ont pas assez de cadres juifs que pour encadrer cette église qui va naître en territoire païen. Il fera la même chose à Athènes, etc., quoi, hein. Là où il y a beaucoup plus de païens que de juifs, il est bien obligé de changer les modalités de la proclamation de l'Évangile. Ce qui nous ramène à des choses dont on a déjà parlé, mais peut-être que c'est nous qui devons changer notre manière de parler de l'Évangile au monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est un monde post-chrétien, il n'y a rien à faire. Hein. Parler du christianisme aujourd'hui paraît compliqué quand même. Tant peut-être que nous, on doit changer de langage pour réaborder les gens, comme les catholiques le disaient les dernières années, la nouvelle évangélisation. Pourquoi nouvelle ? Parce qu'il faut changer nos modus, nos pratiques, etc. On ne peut plus prêcher l'Évangile comme on le prêchait il y a 25 ou 50 ans. C'est plus possible. Voilà, quelques applications peut-être pour terminer. Je ne sais pas trop quelle heure il est. Est-ce qu'on est encore dans la rue ? Ça va, on a le temps.
Il est déjà dans une ligne grande. Comment est-ce qu'on peut savoir comment évangéliser aujourd'hui, nous est-ce qu'on peut suivre des cours, je dirais je vais dire, l'évangile pour nous, ça paraît si simple. On était jeunes, on a connu l'évangile et tout ça. Le monde a changé. Mais comment est-ce qu'on peut s'adapter alors ? Quel langage ?
Alors déjà s'adapter au niveau des techniques. Parce qu'il est clair qu'autrefois c'était l'oralité. Aujourd'hui, est-ce que l'oralité est encore première ? Qui écoute la radio toute la journée ? Quasi plus personne. Qu'est-ce qu'on fait ? On préfère regarder un truc rapidement, la télé ou des réseaux sociaux éphémères, etc. Donc déjà, on va devoir repenser les moyens de communication. Tu vois, par exemple, si on parle de Gutenberg, rendre la Bible accessible à tout le monde via l'imprimerie et la langue vernaculaire du coin, ça a permis à l'évangile de se propager. Quelle est la formule aujourd'hui ? Doit-on utiliser les moyens technologiques modernes ? Bon, je crois que oui. On n'a pas trop le choix. Si tu veux toucher les gens derrière leurs écrans, c'est ça qu'il faut utiliser. En même temps, quand on voit parfois je ne vais pas dire ce que je pense, mais disons l'inanité de certains sites chrétiens aujourd'hui, ça ne témoigne pas du Dieu providentiel nécessairement. Quoi. Donc tu te dis, bon, si c'est ça qu'on assène aux gens de la modernité, on va encore se faire tourner en dérision ou rendre les gens haineux par rapport au christianisme, à Dieu. Donc il faut bien choisir nos moyens. Après, je pense quand même que nous, comme tu le dis, qui avons été habitués à un langage un peu patois de Canaan, quoi, hein, on connaît encore assez bien notre texte biblique, on utilise facilement des images comme ça, tout tirées de la Bible, mais aujourd'hui, si tu ne traduis pas ces images, personne ne va les comprendre. Voilà. Donc, faut-il offrir... Alors, il y a des versions, ça existe, hein. Il y a quand même des versions de la Bible dans un langage dit de français courant. Moi, j'en utilisais une, mais je ne sais pas où elle est passée, d'ailleurs. J'avais une Bible qui avait été faite exprès pour l'Afrique, pour les apprenants français en Afrique, etc. Et c'était dans un langage hyper simple. Mais au moins, voilà. Maintenant, ça n'empêche qu'on se rend bien compte qu'expliquer les textes qui ont plusieurs millénaires dans la modernité d'aujourd'hui, devient encore plus difficile qu'autrefois. Parce que, justement, il n'y a plus cette culture. On a été dominé par 2000 ans d'histoire très chrétienne, alors, avec des mauvais trucs aussi, hein, mais globalement, l'écriture était le socle même de nos valeurs. Ouais. Aujourd'hui, on est sorti de ce socle en termes de valeurs, et on a bien du mal à lire le texte biblique pour ce qu'il est. Et les trois quarts des gens vont te dire « Moi, je comprends rien, ce truc. » Alors, donne un Coran, tu vas voir qu'il y en a qui vont encore moins comprendre, à mon avis. Mais voilà. Donc, la Bible, c'est pas si simple. Et notamment l'Ancien Testament. Tant que tu t'en tiens aux quatre évangiles et à quelques textes du Nouveau Testament, ça passe encore. Parce qu'on annonce quand même le Christ pour ce qu'il est, etc. Mais dès que tu te tournes vers l'Ancien Testament, ça devient un peu délicat, quoi, un peu complexe. Donc là aussi, il y a sans doute un gros effort à fournir pour retrouver des mots liés à la modernité et traduire toutes ces histoires autrement. Alors je sais qu'il y en a qui s'y adonnent aujourd'hui. Hein. Il y a quand même parmi les jeunes théologiens, des gens, alors y compris de nos églises baptistes d'ailleurs, qui essayent d'écrire, de retraduire, etc. Et les dernières versions de la Bible, notamment celles de l'Alliance biblique globalement, sont quand même beaucoup plus accessibles que la version second 1910. Quoi. Oui. Voilà. Mais il faut continuer dans cette veine. Maintenant, nous, en termes de témoignage, j'ai souvent dit à mes étudiants, je crois que ce qu'il faut, c'est parler de notre réalité. Témoigner de notre réalité. Alors, c'est pas je crois en Dieu parce que ou pour ça, mais je vis avec cette certitude que je suis aimé de Dieu. Ma vie est difficile, mais en même temps, je sais que je peux m'attacher à cette vérité. Voilà, bon, il faut trouver de nouvelles manières de parler en termes de « je », de l'évidence de notre foi. Parce que nous avons la foi. Mais voilà, le problème, c'est qu'on ne sait plus vraiment en parler, parce que le monde a changé. Il y a encore 30 ans, parler de sa foi, je pense, c'était accessible. Aujourd'hui, ben, qu'est-ce que les gens peuvent comprendre ? C'est donc aussi prendre les gens là où ils sont, dans les problématiques qu'ils ont.
Oui.
Qui sont quand même la trouille de demain, enfin, tous des trucs
ah,
comme
oui, ça.
La vie difficile, l'exploitation au niveau social.
Il y en a de tous côtés.
Donc, parler des vrais problèmes de la vie, et comment nous, on les vit, comment on les aborde. Parce qu'on n'est pas hors champ. On n'est pas épargné, on n'est pas plus épargné que les autres. Donc on vit quand même aussi nos difficultés.
Ouais.
Maintenant, je me tourne vers Catherine, 2 minutes, mais je pense que c'est encore plus difficile dans le milieu intello. Parce que là, tout le monde est sûr de ses théories, évidemment, quelles qu'elles soient, et notamment scientifiques, hein, si tant est qu'il y a encore du scientifique. Donc voilà, les réalités, c'est que c'est peut-être encore plus compliqué dans la classe des intellectuels que parmi les gens simples, les gens qui vivent la vie normale, j'ai envie de dire, tu vois. Là, on a peut-être plus de poids que par rapport aux intellos. Ceci dit, parfois, tu vois des intellos dans des milieux complètement déjantés. Là, tu te dis, je ne sais pas s'ils ont vraiment réfléchi. Et
finalement, vivre sa foi, est-ce que c'est pas suffisant ? Enfin, je ne peux pas dire que c'est suffisant. Est-ce que ça n'attire pas ? Tu vois, est-ce que ça ne pose pas question ?
T'as l'impression qu'on pose beaucoup de questions, qu'on attire fort les gens.
Mais non,
moi, j'ai pas la sensation, quoi. J'ai l'impression que ça ne passe pas assez fort.
D'autant plus qu'il y a des non-chrétiens qui sont
plus généreux,
plus.
Il
faut beaucoup plus de femmes. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut quand même.
Moi, je crois que le nœud, il se situe vraiment dans comment je vis l'adversité aujourd'hui.
Oui.
Est-ce que je la vis comme un peu Monsieur Tout-le-Monde, j'ai la trouille, je ne sais pas, je me sécurise,
ouais, ça, c'est déjà quelque chose.
Ou est-ce que je vis malgré ça, libre, sans trop de peur quand même. Moi, je pense que c'est ça qui peut vraiment jouer aujourd'hui.
Ouais.
Maintenant, est-ce que ça, c'est visible extérieurement? Moi, je sais qu'avec nos voisins, le peu de discussions qu'on a, bah, on leur laisse bien entendre qu'on est cool. Que tout la vie, tout ça,
c'est vrai,
ça nous fait pas peur.
On a cambriolé chez des voisins en face, chez nous, et elle a sonné à plusieurs portes pour dire faites attention, il y a des gens qui rôdent. Et une autre voisine, elle a presque paniqué. Et il faut faire ce qu'il faut faire. Hein. On met l'alarme quand on en a un, mais qu'est-ce que tu veux ? On ne sait pas toujours tout éviter. Et là, je dis, on est cool. Hein. Les gens ont peur de tout, de la mort, de la maladie, des menaces de guerre, de la politique.
Il faut dire que les médias rajoutent
tout.
Oui, mais en même temps, c'est la réalité.
Dans cette situation.
En même temps, c'est quand même la réalité. Les médias montent en épingle... la guerre, tu peux compter les pays qui ne sont pas en guerre aujourd'hui. Ce serait plus simple que de compter ceux qu'ils sont.
Mais s'il n'y a pas toujours eu ça. Oui.
Pas comme
à ce point.
Le monde...
On est vraiment à deux doigts d'une déflagration mondiale, de nouveau. Hein. Il suffit qu'il y en ait un qui aille un cran trop loin,
et ça va péter.
Mais les gens se regardent un petit peu, je ne vais pas dire comme des ennemis, mais comme des gens que, ils sont là, il faut bien que je les supporte, mais si on pouvait ne pas les avoir, ce serait bien, parce que notre voisine déménage, enfin elle va déménager, et il y en a une autre qui habite un peu plus loin, qui dit « Ah, vous avez votre voisine qui va partir, mais quel voisin vous allez avoir ?» Et dans ce quartier-là, on sait que... Ils se supportent bien ensemble, mais il ne faut pas que quelqu'un d'autre... parce qu'il y a une maison qui se vend aussi. Il y a une maison qui se vend. Mais qu'est-ce qu'on va avoir dans le quartier, là, dans ce petit quartier ? 5 maisons.
Mais c'est la
Les gens ont peur de l'autre.
Oui, c'est vrai.
Et nous, on parle avec tout le monde. Les gens sont étonnés qu'on parle avec tout le monde. On a réussi à parler avec tout le monde. Merci Seigneur. Mm-hmm. Mais les gens ne se parlent pas. Des gens qui se connaissent depuis des dizaines d'années ici, ils ne se parlent pas. Mm. Ils ne se disent même pas bonjour. Et nous, on a réussi à parler avec l'ensemble des gens-là. Il faut le temps, parce que les gens sont dans leur crainte, et ouh, c'est qui ces gens-là? Et puis, tout doucement, de fil en aiguille, on commence à parler.
Et c'était agréable.
Maintenant, je reconnais que, maintenant je vais parler en tant que grand-père, j'ai quand même peur pour la suite, pour la génération qui vient,
tout à fait.
De qu'est-ce qu'ils vont avoir comme monde, alors tant sur le plan écosystème que sur le plan violence, etc. Et technologique, parce qu'on est de plus en plus happé par la technologie, de moins en moins libre en réalité. Ça me fait quand même un peu peur.
Mais
en même temps, c'est le monde de demain, et je pense qu'on va transmettre quelque chose à nos enfants... en termes de sécurité intérieure, de paix de l'âme. Parce que sinon, il n'y a plus qu'à faire une dépression ou à se suicider, en gros. Je ne sais pas si c'était ça, les applications. Ne pas se suicider.
Hier, à Fondation, il y a une dame de... Je crois qu'elle est autour de... Elle est proche des 90. Et à Noël, ils mettent toujours 3 assiettes vides. Et ils arrivent toujours, soit à la sortie de la messe ou n'importe, à ce que il y ait les 3 viennent. Et il y en a une qui était présente là, qui est revenue un peu à la fois grâce à ce réveillon de Noël vécu chez Marie, quoi. Elle témoignait hier. Et le petit groupe, il y en a 2 qui reviennent à la fois là et... que j'ai commencé depuis 3 fois. J'essaie de, au niveau fraternel, de faire ce que vous faites au niveau des voisins. Moi, je ne fais pas au niveau des voisins. Mais enfin, chacun a un peu sa mission. J'ai mis une série de moyens un peu fraternels et ils peuvent en ajouter. Et on va essayer de les vivre pour renforcer ce côté... de relationnel qui peut amener à une ouverture à Jésus, quoi, par là. Moi, ce que je fais aussi, c'est avec des contes. J'ai des contes comme Blanche-Neige et compagnie. Je fais le côté psychologique qu'on peut y trouver, et de croissance humaine ou de mise en garde, suivant les contes. Et puis pour ceux qui sont ouverts, à faire le pendant chrétien, quoi, des paroles. Et je fais pareil pour les blessures. C'est chacun à trouver. Parce que, et les moyens de communication non violente. Parce qu'on part de leur positif. Il y a des histoires où ils sont connus. Dans leur vécu, toutes des choses comme ça. Et on ne dit pas s'il y a quelque chose qui nous blesse, on le dit en dernier lieu et d'une bonne manière, quoi. On dit d'abord leur positif. Je l'ai encore vécu aujourd'hui, que je rencontrais quelqu'un. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner. Non, c'est rien. Moi, je sème. Tout ce qui me sent. En tout cas, ça passe un petit peu. C'est des moyens. Il y en a vu. C'est pour la. C'est comme la guérison des blessures. Comme ma fille a reçu une formation, là. Il y a ouverture ou fermeture.
Moi, je trouve que c'est une question de langage et de compréhension qu'il n'y a plus chez les jeunes. Les mots n'ont plus le même sens. Et... voilà. C'est vraiment compliqué.
Ouais. Non, je pense qu'on
est un peu déphasé aussi.
On est un peu déphasé, oui. Est-ce qu'on devient trop vieux? Mais les idées, pas. Non, c'est du tout les mêmes idées. C'est compliqué.
Et Jean-Pierre, de Fondation aussi, qui a comment, Il y a des petits-enfants et des enfants qui ne sont pas beaucoup, très chrétiens ou pas du tout. Il a décidé, il a 75 ans, plutôt que de toujours rester en taisant sa foi, à Noël, il a, c'est chez lui que ça se passe cette fois-ci, il a dit, je vais faire un speech en disant, il n'a pas encore préparé, mais il va préparer en partie la trame et puis il va se laisser guider, essayer de se laisser guider par l'esprit pour dire de dire comment Jésus a changé sa vie. Quoi. Ouais.
Ça, je crois que c'est important.
Ensuite, au prochain numéro, je lui demanderai ce que ça a donné.
Et de rappeler aussi la loi, ce que nous on fait, chaque année on fait ça. Donc il y a toujours un moment, la famille est là, tout le monde, on est quand même nombreux, et il y a toujours un moment spirituel.
Ah oui.
Il raconte l'histoire, on chante, et je trouve que ce moment est important pour nos enfants, déjà, parce que c'est ils l'ont toujours vécu, mais les petits-enfants, ils attendent ça. Et je me dis, c'est ça, en tant que grands-parents, on a quelque chose à perpétuer. Mmh. Et donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Et quand on me demande qu'est-ce que tu fais à Noël le 25, je dis voilà, le 25, oui, tout le monde est là, et je dis tout le temps qu'on a un moment spirituel, parce que Noël c'est aussi la naissance de Jésus, quoi.
Oui, bien sûr.
C'est l'anniversaire, donc c'est lui qui est le centre, hein, sinon on s'en sort plus. Hein. Et voilà.
Je croyais que c'était le sapin, moi.
Ça, c'est la lumière pour faire joli.
Alors, peut-être pour terminer, parce que l'heure tourne. Hein. Je pensais à deux applications qu'on ne doit pas perdre des yeux. La première, c'est l'opposition. L'opposition à l'Évangile. Mmh. En fait, on se rend compte au travers de l'histoire qu'elle a toujours existé.
Ouais, c'est ça.
Quand il ne peut pas y avoir de proclamation de l'Évangile sans opposition. D'où qu'elle vienne. De l'ennemi public numéro un ou de nos concitoyens. Une opposition constante à la proclamation de l'Évangile dans le monde entier. Et dans toutes les cultures. Donc ça, c'est clair. Et du coup, ça ne devrait pas nous étonner. On devrait même intégrer plus consciemment dans nos schémas d'évangélisation le fait que nous engendrons de l'opposition. Alors à ce moment-là, on serait confortable, puisque c'est normal, c'est naturel. La deuxième chose que je voulais souligner avec vous, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais au sujet de la division, la déchirure dont on parlait, hein, la ville divisée en deux... Eh bien, n'est-ce pas Jésus lui-même qui avait annoncé ceci ? Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, ce qui divise. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, etc. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça, c'est dans Matthieu. Dans Matthieu 10, de nouveau. C'est quand même extraordinaire de se rendre compte qu'à partir du moment... où tu témoignes, où tu proclames de l'Évangile, tu es un objet de division. Donc, pas dans un sens négatif, mais tu crées une coupure entre le clan de ceux qui vont adhérer et le clan de ceux qui ne veulent pas adhérer. C'est leur libre choix. Hein, okay. Donc ça non plus, ça ne devrait pas trop nous étonner qu'il y ait des clans qui se fassent à partir du moment où l'Évangile est prêché et vécu. Il ne suffit pas que de le prêcher, je crois. Il faut aussi démontrer qu'on peut le vivre. Sinon, ça n'a pas vraiment de sens. Hein. D'où ça nous renvoie aussi à l'idée que nos lieux d'église, quels qu'ils soient, petites ou grosses communautés, etc., doivent être d'abord des lieux d'accueil. Des lieux où les gens se sentent bien, des lieux où on peut dire les choses, des lieux où on peut parler. Et quand même... Bernard Raymond, on sait très bien que dans tous les milieux, c'est pas ça. Donc il y a quand même parfois des églises, alors qu'elles soient grandes ou pas grandes, hein, dans lesquelles il n'y a pas de liberté de parole. En tout cas, pas en dehors du discours officiel. Il y a des églises où je pense qu'on ne pourrait pas accueillir des gens différents. Parce que ce serait super mal vu. Voilà. Je pense qu'il faut penser à tout ça. Bon, moi, je préconise alors une église inclusive, justement, adapte toutes les différences, alors qu'elles soient de type langue, race, etc., ou que ce soit des problèmes majeurs comme aujourd'hui. Tu as des familles monoparentales, tu as des familles qui vivent sans mariage. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens? Est-ce qu'on leur dit, écoutez, non, alors, d'abord, montrez patte blanche, et après, vous pourrez faire partie de la communauté? Ou est-ce qu'on les accueille au nom du Christ? Parce que c'est comme ça. Moi je ne comprends pas aujourd'hui comment, en ayant lu les quatre évangiles, on ne se soucie pas de ce que le Christ a fait. Aller manger chez les publicains, côtoyer les putes... Si aujourd'hui on faisait ça dans nos ministères, ça on serait vrai. Super mal vu.
De l'autre côté, si j'ai compris l'évangile et je viens à l'église, j'écoute la parole et je lis la parole, je crois que Dieu demande aussi à un moment donné de l'obéissance.
Oui,
et
mais dans ce cas-là, il faut déjà que tu aies toléré la présence de ces personnes qui se tournent progressivement vers Dieu.
Oui,
ça c'est nous, quand... on est trop exigeants, je pense.
Oui, oui, ça c'est quand on se tourne progressivement. Mais il y a des gens qui vivent, si je peux le dire, c'est pas un jugement, mais pas comme Dieu aimerait qu'ils vivent. Et quand on parle de paix et de liberté... quand on côtoie des années des personnes et personne n'ose leur dire et je dis pas écoute maintenant ça suffit, non, les amener à la croix aussi pour recevoir le pardon du péché, je pense que c'est pas d'amour quand on voit un frère ou une sœur qui pêche tire leur plan. C'est ça. On fait partie de ce corps de Christ. Et c'est pas parce qu'on n'ose pas ou on ne veut pas. Il faut être délicat. Mais Jésus, quand il était chez Zachée, le résultat, que Zachée, il donnait tout ce qu'il avait.
Oui, mais justement parce que Jésus avait une libre parole.
Oui, voilà.
Donc s'il avait envie de dire à quelqu'un qu'il n'était pas OK, ouais, il le faisait. Ouais. Aujourd'hui, j'ai l'impression que dans l'Église, on n'ose pas faire ça. On n'ose pas confronter les gens. Mais d'un autre côté, on ne sait pas les accueillir non plus.
Ouais.
Alors finalement, où est-ce que les gens vont pouvoir trouver Jésus à ce moment-là?
Oui, je suis d'accord. Il faut d'abord être
une communauté d'accueil la plus ouverte possible, mais dans laquelle la parole est libérée. Je vais vous donner un exemple concret. Peut-être que je l'ai déjà cité une ou deux fois ici, parce que parfois je radote aussi. Mais en tant que pasteur, pendant des années, 17 ans à Wavre, chaque fois qu'il y a eu des cas particuliers, des gens qui arrivent non mariés, etc., on n'a jamais fait d'esclandre. Déjà, l'équipe pastorale, on a d'abord fait l'accueil. Après, en visite pastorale, j'allais chez ces gens leur dire, écoutez, vous ne correspondez pas vraiment aux critères de l'Évangile. Vous êtes un peu hors norme par rapport à... Donc, ici, on ne va pas vous mettre à l'index, mais quand on prêchera la parole, et rien que la parole. Donc, après, c'est à vous de tirer vos conclusions. Ou vous adhérez à cette parole et vous transformez ce qu'il y a à transformer. Non pas pour être clean, mais pour être fidèle et disciple, justement.
Oui, parce que personne n'est clean, je veux dire.
Voilà.
Moi, je ne me rends pas compte.
Au bout du compte, je peux te garantir, et Lynn peut le dire ici, tous les couples qu'on a eus un peu abracadabrant qui sont arrivés à l'église ont tous demandé le mariage dans les mois qui ont suivi. Parce que justement, on ne les a pas pointés, parce qu'on leur a dit les choses comme elles étaient. Après, tu as des gens. Après, tu as aussi des gens qui ont fui presque immédiatement. Il y a ceux qui n'ont pas supporté qu'on leur dise ici, c'est la parole qui prévaut, on prêchera cette parole.
Oui, voilà. Et ça, c'est un autre truc que je trouve. Est-ce qu'on prêche cette parole? Est-ce qu'on étudie ensemble la parole?
Alors, si tu veux mon avis sur le milieu évangélique, je pense qu'on blablate beaucoup sur l'amour de Jésus, de Dieu et compagnie, et on n'aborde pas les vrais problèmes. Donc c'est très facile de parler de grâce, de pardon, de salut, mais on ne confronte pas les gens là où ils en sont.
Ouais.
Donc à un moment donné, il faut aussi prêcher toute la parole.
Ouais.
Ça, j'avais amené l'équipe pastorale à l'époque à prendre conscience Bon, on avait la chance d'avoir une cassettothèque à l'époque de toutes les prédications. Et j'avais fait demander à quelqu'un de répertorier toutes les prédications depuis l'origine de l'Église. Et on s'est aperçu qu'il y avait des livres entiers sur lesquels il n'y avait jamais eu d'enseignement. Mais jamais. Oh. Et tu voudrais que les gens soient adultes et matures du moment où tu ne prêches pas toute la parole. Au moins, dans le milieu juif, on lit la Torah en un an, tous les ans. En un an, on prêchera sur toutes les paroles de la Torah. Chez nous, en milieu catholique, ça se fait parfois. Chez les luthériens, il y a les calendriers. En 3 ans, tu fais toute la Bible.
Solivant a été à l'école, mais aussi dans les églises où on prêche toute la parole de Dieu.
Ah oui, c'est
important. Ils appellent ça la prédication expositive. Comment est-ce qu'on dit ? C'est expositive.
Oui, expositive, oui.
Ouais.
En tout cas, c'est le rôle. Jusqu'à l'Apocalypse. C'est le rôle des leaders de chaque église. D'être certain qu'ils ont enseigné toute l'Écriture.
Ouais.
Et s'ils ne l'ont pas fait, tu t'étonnes après qu'il y a des lacunes, qu'il y a des comportements déviants, voilà.
En tout cas, moi, à Nouvelle Impact, je suis leurs enseignements, c'est évangélique, mais moi, je trouve qu'ils confrontent avec la vie et la parole de Dieu.
Tu parles de Kinépolis ?
Oui.
Oui, on a déjà entendu.
On a souvent de bons échos au niveau de l'enseignement.
Oui.
Et ça, il faut le faire.
Maintenant, bon, je prends ma fille aînée qui est homosexuelle. Hein. Elle a accepté la prière, un peu de guérison des blessures, etc. Et tout de suite, celle qui l'a suivie dans cette prière-là a reproché, enfin, elle a dit... que ça ne plaisait pas à Dieu, etc., avec les versets de Deutéronome, enfin de Lévitique, enfin les 2-3 versets que je ne sais pas par cœur. Mmh. Mais ben, qu'est-ce que ça a donné ? Ma fille qui s'ouvrait un peu à la foi chrétienne a été dégoûtée.
Ah
ouais. Hein, et c'est à la fois, il faut le dire. Mais il ne faut pas précéder l'étape où les personnes sont. Ouais.
C'est ça,
donc ouais, dans comme tu dis, c'était l'accueil, voir ce qu'elle vit, etc. Et les blessures qu'elle a.
C'est ça le problème. Les dirigeants de l'Église n'ont peut-être pas assez de temps pour s'investir, pour accompagner.
Mais ils ont fait. C'est celle qui...
Ah, oui, oh,
oui
okay.
Elle a fait la formation. Mais,
mais c'est ça que je constate.
Même avec une formation, et c'est elle qui forme d'autres à cette prière de guérison chrétienne des blessures. Mais en même temps, moi je suis suivie par elle, j'ai déjà fait 4 fois, et il y a beaucoup de révélations qui me viennent, et... pour amener à un changement et à repentir et un changement pour une obéissance, comme tu dis, à la parole. Mais même quand on a eu la formation, je vois bien Chantal, il y a 2 personnes, ma fille, qui a fait la formation, et elle, 2 personnes ont accepté que j'écoute par WhatsApp en même temps, parce que, ils ont accepté pour... que j'ai et je vois la différence entre la formatrice qui est très bien mais qui est plus radicale quoi. Et Chantal est radicale aussi hein, pour certaines choses, mais tu sens plus d'empathie, donc il y a maintenant ma fille aînée a vécu avec une autre, parce que Chantal ne veut pas faire avec ceux de la famille mais avec une autre, et là, ça marche. Elle ne vient pas mettre les pieds dans le plat trop tôt.
Finalement, chacun a son temps aussi.
Mais
il y a des gens qui prendront plus de temps. Et à partir du moment où tu fermes les portes d'une église, il n'y entre plus.
Mais oui, c'est ça.
C'est pas ça qu'il faut
faire. T'es refroidi pendant un moment.
Quand c'est encore foutre le camp d'église, c'est pas ça encore.
C'est vraiment compliqué.
je pense qu'il va bien expliquer le fait que c'est une nécessité d'être ouvert, d'accueillir les gens, que les gens se sentent accueillis. Mais en même temps, ils ont besoin, ces gens aussi, de tomber dans une église forte. Parce qu'on connaît des églises, notamment l'église Mosaïque, là, en Hollande, du côté de Venendon, où tout le monde est le bienvenu, extraordinaire. Mais tout le monde peut avoir la possibilité de faire un peu ce qu'on veut et de croire ce qu'on veut et de dire ce qu'on veut. Et il n'y a plus de canalisation. Et alors là, c'est un problème pour les églises. Comment être accueillant, mais aussi, je ne vais pas dire ferme, mais aussi stable, droit, fort. Allez, j'ai dit plutôt dire fort. Parce que stable, droit, ça veut dire mou. Mais assez fort pour que la parole de Dieu reste la vérité, elle ne commence pas à se diluer parce qu'on accepte tout le monde et on fait ce qu'on veut, parce que tout le monde a raison. Et on en arrive à des mariages homosexuels, à des gens qui pourraient faire. Hein, je prends un bête exemple, très pratique. Imagine que nous sommes dans une église où il n'y a personne qui joue de la musique et on chante a cappella. Et il arriverait dans cette église quelqu'un qui est une vie complètement dissolue, mais qui sait jouer parfaitement, qui est un artiste. Qu'est-ce qu'il va avoir envie de faire s'il se sent accueilli? Se proposer. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pratiquement dans un cas pareil? De dire, non, attends, excuse-nous, et essayer de lui faire comprendre. C'est un peu compliqué de jouer à la gloire de Dieu et que tu... Et en même temps, on ne veut pas le refroidir.
Mais tu n'empêcherais pas de chanter, par exemple?
On ne peut pas l'empêcher de chanter, ça c'est sûr.
Alors, est-ce qu'on peut empêcher de jouer?
C'est un peu différent.
Mais où on s'arrête? Parce que tu ne nous permettrais pas de prêcher.
Où arrêtons-nous? Et c'est là que je dis, et l'exemple que tu as pris tout à l'heure, c'est vous étiez un conseil fort, équilibré, centré sur la parole de Dieu, vous avez pris toutes les choses en main dès le départ, vous avez été accueillant, mais vous avez pris les choses en main, que les gens se sont sentis entrés dans l'église, mais pas... C'est compliqué, hein. Et c'est là que je dis qu'il faut que l'église soit forte.
Une église forte et une église qui prêche de manière qualitative l'écriture. Et toute l'écriture, de préférence.
Ouais.
Et ça ferme quand même la porte à beaucoup alors d'apports extérieurs, de philosophie, de machin, parce que tu as du boulot si tu veux prêcher toute l'écriture.
Et moi, je pense que sérieusement, ça manque. On peut prier pour ça. Hein. Mm-hmm. L'enseignement biblique, des études bibliques. Les prédications, je dois dire, on les apprécie beaucoup. Hein.
Ouais, l'Église, il faut avouer qu'on est... On est fort enseigné. D'une manière générale, je l'ai dit souvent à beaucoup de personnes, l'église de Bligny, c'est une église de 3 E. Il y a l'enseignement, l'exhortation et l'encouragement. Et ça, il faut le garder. Et il ne faut pas que les gens qui pourraient venir se sentent libre d'être l'Église, enfin, pour ceux qui ne sont pas encore dans l'Église, mais d'être l'Église et de dire, ben, je fais partie des autres, oui, jusqu'où? C'est je pense à quelque chose et ce n'est pas facile.
C'est pour ça qu'il faut que l'Église ait une identité forte au départ.
Et savoir quelles sont les choses.
Oui, c'est quoi qu'on tient.
Comme vous l'avez fait, j'aime beaucoup cet exemple-là, parce que vous leur avez parlé avec amour, avec respect, un peu comme un parent qui aime, qui est autour d'amour, mais qui en même temps demande d'obéir, de marcher, et éduque. Ouais. Donc il y a les deux, quelque part.
C'est une grande sagesse.
Il
ne
faut
ça
pas fait, sous-estimer.
Ça fait un peu à vivre. Nous sommes des thermostats. C'est nous qui donnons la température.
Il faut déjà, un bon noyau.
La donnons, la température.
Qui est quelques personnes.
Bon.